Vous écoutez France Culture, il est 12h30, passé de 30 secondes. Tout de suite les informations par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Union européenne tente de répondre à la crise des migrants. L'Allemagne et la France ont lancé hier une initiative pour organiser l'accueil des réfugiés et une répartition équitable en Europe. La chancelière allemande parle de quotas contraignants, le président français de mécanismes permanents et obligatoires. Les ministres des Affaires étrangères en discutent en ce moment à Luxembourg. Précision de Marie-Pierre Véraud dans un instant. Plusieurs pays d'Europe de l'Est affichent leur désaccord avec ces quotas contraignants. Les dirigeants hongrois, tchèques, polonais, slovaques se réunissent de leur côté à Prague. Correspondance avec Florence Labruyère. La première visite du roi Salman d'Arabie Saoudite aux États-Unis, rencontre avec Barack Obama, dominée par des désaccords sur la Syrie, le Yémen, mais aussi cet accord sur le nucléaire iranien. Précision et analyse de Nadine Epstein. Les ministres des Finances du G20 se retrouvent eux à Ankara pour tenter de soutenir l'économie mondiale face aux signes de faiblesse venus de Chine. Explication d'Anne-Laure Chouin, l'invité du journal. Notre consoeur Françoise Fressoz qui publie un livre sur François Hollande intitulé « Le stage est fini » chez Albin Michel. Dans la dernière partie, Caroline.
La suite de cette émission qui s'inscrit dans une journée spéciale de France Culture au cours de laquelle plusieurs magazines s'intéressent à l'état du débat et à la vie des idées en France. Pour cette dernière partie, nous avons souhaité ouvrir une discussion entamée au cœur de l'été par un éminent chercheur connu pour ses recherches sur la Russie et ses positions critiques quant à l'euro, c'est Jacques Sapir. La question que nous posons avec Jacques Sapir, c'est le souverainisme sera-t-il la bataille idéologique de 2016.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont donc réunis en ce moment même à Luxembourg autour de la crise des migrants. On le sait, l'Allemagne et la France ont lancé cette initiative hier pour peut-être marquer un tournant qui permettrait d'organiser l'accueil des réfugiés et aussi cette fameuse répartition équitable en Europe des familles qui fuient principalement la guerre en Syrie. Mais de quelle répartition parle-t-on précisément? Qui pourrait être concerné? Ces questions restent ouvertes. La chancelière donc parlait de quotas contraignants, mais François Hollande disait qu'il faudrait un mécanisme permanent et obligatoire. La France et l'Allemagne demandent en tout cas d'assurer le retour des migrants irréguliers dans leur pays d'origine et encore d'aider évidemment les pays d'origine et de transit. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
On est encore très loin d'un accord européen, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on va voir qu'il y a plusieurs pays de l'Est avec Florence Labruyère dans un instant qui sont opposés à ces quotas. Cet accord, malgré tout, prend forme. On en discute à Luxembourg. Comment cela pourrait se traduire concrètement s'il devait entrer en vigueur?
Il y aurait déjà d'une part les mesures d'urgence pour faire face à cet afflux aux portes de l'Europe et puis des mesures de plus long terme. Alors dans l'urgence, la Commission européenne devrait demander aux pays européens de se partager quelques 120 000 demandeurs d'asile qui arrivent notamment en Grèce, en Italie, en Hongrie. Il s'agit de soulager ces premiers pays d'accueil et donc d'enterrer au moins provisoirement les accords de Dublin. Ce partage se ferait sur des critères précis, population, PIB, taux de chômage, impact économique de l'arrivée de demandeurs d'asile et nombre de demandes déjà examinées. Ce mécanisme serait mis en place peut-être pour 2 ans, afin donc de faire face à cet afflux exceptionnel. On voit déjà que les 120 000 demandeurs d'asile dont on parle, eh bien c'est une goutte d'eau. Mais jusqu'à présent, on ne parlait que des demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie. Désormais, Jean-Claude Juncker y ajoute la Hongrie, peut-être pour essayer de se concilier les bonnes grâces de Viktor Orban. À côté de ces mesures d'urgence pour les demandeurs d'asile déjà arrivés, la Commission va proposer un mécanisme permanent de relocalisation des réfugiés avec une clé de répartition à peu près semblable, les mêmes critères que pour cette procédure d'urgence. Il s'agit là d'une répartition qui serait donc permanente et obligatoire. Peut-être une préfiguration d'une future politique d'asile commune. Les pays qui refuseraient de s'y soumettre seraient mis à contribution financièrement. Alors, outre ces demandeurs d'asile, il y a aussi les réfugiés déjà présents dans des camps du HCR qui seraient aussi répartis selon des quotas. En contrepartie de cet accueil plus généreux, la Commission appuie la création de hotspots, de centres de tri, pour différencier les candidats sérieux à l'asile de ceux qui fuient la misère. Il y en aurait 3 rapidement mis en place au Pirée, à Catane, en Italie, ainsi qu'en Hongrie. Frontex pourrait être mise à contribution pour aider à renvoyer les migrants recalés dans leur pays. Une action en direction des pays d'origine devrait aussi être lancée pour mettre en place un dispositif de retour. Alors voilà donc pour les migrants qui sont là, si l'on ose dire, et puis pour essayer d'endiguer les flux, pour réduire les incitations à la migration illégale, des délégations pourraient être envoyées en Égypte, au Pakistan, en Turquie, dans les pays du Maghreb avec des officiers de liaison. Enfin, Jean-Claude Juncker devrait aussi proposer une liste commune de pays sûr. sûr dont les ressortissants n'auraient pas vocation à obtenir l'asile, sauf cas particulier. Il s'agirait ainsi de commencer à unifier ces politiques d'asile, notamment en matière de droit au travail, mais cela prendra sans doute beaucoup plus de temps.
Voilà donc l'esquisse de ce plan européen dont on discute en ce moment, mais il y a plusieurs pays de l'Est, je le disais, qui ne sont pas d'accord avec ces quotas. Les dirigeants de 4 d'entre eux se réunissent à Prague, la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie. Florence Labruyère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Budapest. Parmi ses opposants, évidemment, le Premier ministre hongrois qui est en pointe. L'afflux massif de migrants menace, dit-il, les racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce qu'il souhaite, ainsi que ses camarades et ses partenaires donc, de certains pays d'Europe de l'Est, créer un front du refus qui est en train de se constituer ?
Oui, sans doute. Effectivement, la proposition franco-allemande des quotas, d'assigner des quotas à chaque pays, ne séduit pas du tout Viktor Orban. Mais le Premier ministre slovaque, lui, est carrément farouchement opposé. Donc la Hongrie n'est pas le seul pays d'Europe centrale à se cantonner dans un repli identitaire et nationaliste. Mais Viktor Orban est celui qui l'affirme de la manière la plus virulente. Il a également dit qu'il ne voulait pas d'un grand nombre de musulmans dans son pays parce que la Hongrie a été occupée par les Ottomans pendant 150 ans. Alors, il faut quand même dire que la posture nationaliste de Viktor Orban est en phase avec une bonne partie de l'opinion publique, la majorité des électeurs de droite, mais aussi certains électeurs d'opposition pensent que la Hongrie est une nation insulaire avec une langue unique et originale, que les Hongrois sont un peuple à part et qu'ils doivent le rester. Je n'ai pas envie que nous devenions une société multiculturelle comme en France où ça apporte plein de problèmes, m'a dit un habitant de Budapest. Et j'ai vu à la gare de l'Est un budapestois discuter avec un réfugié syrien de manière très courtoise d'ailleurs et très gentille en lui disant, vous comprenez, nous on n'a rien contre vous, mais nous on est chrétiens et on veut rester entre nous.
Alors justement, en parlant de la gare de Budapest, il y a encore des milliers de migrants qui restent dans l'attente de train, donc pour l'ouest de l'Europe. 500 environ refusent de quitter leur rame qui a été bloquée à Bishkek, près de la capitale hongroise, vous nous en parliez hier soir. Est-ce qu'il y a des pourparlers pour débloquer cette situation ?
Alors écoutez, la situation est toujours dans l'impasse. Ce sont les policiers qui gèrent la situation sur place. Il y a environ 300 policiers et ça n'a pas tellement bougé depuis hier soir. Je veux dire que les policiers se comportent quand même de manière assez correcte. Ils essayent d'apporter de la nourriture que les réfugiés ont refusé jusqu'ici. Ils essayent d'apporter de l'eau. Hier soir, j'ai quitté les lieux très tard, vers minuit. Je voyais sur le quai des policiers quand même parler avec des jeunes réfugiés, parler de manière très décontractée.
Qui ne veulent pas descendre et qui veulent continuer leur chemin.
Oui, ils veulent continuer leur chemin vers l'Allemagne. En revanche, la situation est très volatile à la gare de l'Est. En ce moment même, plusieurs centaines de réfugiés sont en train d'essayer de s'organiser. Leur idée, de partir à pied vers l'Autriche. Un autre petit groupe voudrait aller manifester devant l'ambassade allemande à Budapest. Donc il y a beaucoup de confusion en ce moment à la gare de l'Est, mais ce sont principalement des hommes seuls qui voudraient partir. Les familles, elles, préféraient rester à la gare de l'Est.
Florence Labruyère, merci beaucoup. Encore un petit mot peut-être sur ce sujet pour vous signaler que vous trouverez toutes les données du problème sur notre site internet Marie-Pierre Véraud et c'est notamment vous qui avez participé à la mise en place, la mise en ligne de ces informations.
Oui, avec Camille Renard de Service Multimédia et Catherine Pétillon, il s'agissait de faire un état des lieux de la situation. D'une part, c'est en trois volets ce dossier, dans des cartes interactives pour avoir des chiffres, nombre réel de demandes d'asile, estimation des réfugiés, carte des principales routes aussi en Méditerranée, des données donc pour sortir peut-être parfois des mots. On parle malgré tout du débat sur les mots, faut-il parler de migrants, de réfugiés, mais des données chiffrées pour se faire une idée à la fois du nombre de personnes, des routes qu'elles empruntent et des politiques d'asile aussi dans différents pays. On a des cartes interactives par exemple qui détaillent les différentes politiques d'accueil dans les pays européens où on peut voir très nettement cette fracture Est-Ouest. À venir dans la journée, une mise en perspective de ces flux de manière géographique et historique. Géographique, on se rend compte que 9 réfugiés ou demandeurs d'asile sur 10 sont accueillis dans les pays du Sud. Et puis historique, qui se souvient que la France en quelques mois avait par exemple accueilli 500 000 réfugiés espagnols dans les années 39.
Renvoi sur le site de France Culture. Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Autre conflit, autre chiffre. L'Organisation internationale pour les migrations affirme ce matin que l'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 2 millions de déplacés au Nigeria en 6 ans. Un chiffre en forte hausse par rapport aux 1,5 million de déplacés recensés jusque-là.
La première visite du roi Salman d'Arabie Saoudite aux États-Unis qui sera reçue cet après-midi par Barack Obama.
C'est une visite présentée comme l'occasion de renforcer les relations, la collaboration entre deux alliés, mais la rencontre sera sans doute dominée par les désaccords qui sont nés sur la Syrie, sur le Yémen, mais aussi sur l'accord nucléaire iranien qui a été annoncé le 14 juillet. Ça fait quand même beaucoup de points de friction pour des alliés, Nadine Epstein.
Oui, des sujets qui fâchent, des divergences de vues entre deux pays qui, jusqu'à présent, sont des partenaires stratégiques proches, deux États aux intérêts communs. Rappelons par exemple, les Américains ont 15 000 soldats stationnés dans le Golfe. Mais Riyad voit d'un très mauvais œil la normalisation en cours des relations entre Washington et Téhéran. Les dirigeants saoudiens craignent que l'Amérique modifie sa stratégie dans cette région qui pourrait déboucher sur un changement d'alliance, à l'instar de ce qu'avaient fait les États-Unis en abandonnant l'un de ses plus fidèles alliés, le Shah d'Iran, ou plus récemment avec l'Égyptien Hosni Moubarak. C'est d'ailleurs pour rassurer les membres du Conseil de coopération du Golfe, qui comprend l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Qatar, Oman, que l'administration Obama a organisé la rencontre de Washington. Les Américains devraient promettre de ne pas les abandonner aux griffes de l'ennemi perse. Mais que se passerait-il si la situation au Yémen empire? Cette guerre par procuration que Riyad livre à l'Iran, soutenue par Washington, est de plus en plus critiquée en raison des attaques aveugles, l'utilisation d'armes à sous-munitions qui pourraient s'avérer des crimes de guerre. Les principales victimes sont les civils yéménites. Ce qui se passe au plan intérieur de l'Arabie Saoudite est aussi de plus en plus critiqué. Le pays est en tête des pays qui détient le record d'exécution à mort, qui pratique la discrimination des femmes, des minorités religieuses. Enfin, l'Arabie Saoudite est le 164e sur 180 États qui, concernant la liberté de la presse, selon le rapport établi par Reporters sans frontières cette année.
Merci Nadine. Nouvelle destruction de l'État islamique à Palmyre. Les islamistes ont fait exploser cette fois au moins trois des célèbres tours funéraires. Il s'agit de tombeaux, de célèbres tombeaux construits par des familles riches de l'antique Palmyre, qui était le symbole de l'essor économique de cette ville de l'Ouest dans les premiers siècles de l'ère chrétienne.
Les ministres des Finances du G20 se retrouvent à Ankara pour tenter de soutenir l'économie mondiale face aux signes de faiblesse venus de Chine.
Avant-hier, le FMI estimait que le ralentissement de l'économie chinoise aura un impact sans doute plus important qu'attendu, que prévu. C'est ce que reflète la baisse des prix des matières premières et aussi des marchés boursiers. François Hollande disait récemment que cet impact serait finalement assez faible sur la croissance en France ou en Europe. C'était apparemment plus un espoir donc qu'un pronostic, Anne-Laure Chouin.
Oui, même si les économies dites avancées devraient toujours, selon les prévisions du FMI, voir leur activité économique un peu tirée par la baisse des prix du pétrole, il est désormais à peu près établi que l'impact du ralentissement chinois sur les économies émergentes et les autres est un vrai sujet. Le Japon, notamment, demande instamment qu'il soit évoqué franchement lors de ce G20 des ministres des Finances. Le FMI prévoit donc que la croissance mondiale en 2015 sera plus faible que prévu. Une prévision qui vient après une suite d'indices plutôt inquiétants, et notamment ceux du secteur manufacturier et des services chinois. Et une prévision qui vient aussi acter l'entrée en récession de géants comme le Canada et le Brésil, et la reprise plus faible que prévu des États-Unis ou encore de la France. Tout comme François Hollande, Pierre Moscovici voulait croire en début de semaine que ces derniers jours de fébrilité boursière due à la crise chinoise ne seraient pas de nature à déstabiliser l'économie de la zone euro. Et c'est sans doute le discours que vont tenir les ministres des Finances réunis à Ankara, à part donc peut-être le japonais, un discours rassurant, qui devrait insister sur la nécessité d'une meilleure communication, notamment entre gouvernement et marché financier. Là encore, on en revient à la Chine, dont l'État fut l'instigateur de la surenchère boursière et qui désormais tente, comme il peut, de l'enrayer. Autre inquiétude des grands argentiers, les rumeurs de plus en plus inquiétantes sur une remontée des taux directeurs de la Fed américaine. Il faut que celle-ci, qui interviendrait après des années de politique monétaire accommodante, soit basée sur des données économiques stables, prévient le FMI, qui redoute une fuite des investisseurs des marchés émergents vers de meilleurs rendements aux États-Unis.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour.
Merci de votre présence autour de cette table pour la dernière partie de la grande table, pour vous demander un petit commentaire sur la conjoncture, sur cette question de la croissance. On entend tout et son contraire. Ça repart, non, finalement ça faiblit plutôt, et même il faudrait finalement se passer de croissance. Alors quelle est la réalité de la situation?
La réalité, c'est que nous aurons une très faible croissance en 2015. Même le 1%, qui est déjà une donnée révisée et qui est la donnée qui a été utilisée par le gouvernement pour réaliser le budget, ne sera pas atteint. On sera plus probablement autour de
0,8%. Et au plan mondial?
Alors, au plan mondial, il y a à l'évidence aujourd'hui un ralentissement important. Ce ralentissement est dû à la fois à des facteurs conjoncturels, hein, c'est-à-dire, bon, là, il y a très nettement un problème boursier, un problème de bulle boursière en Chine, mais il est aussi lié au pivotement général de toute une série d'économies qui seront de moins en moins tirés par leurs exportations et qui vont de plus en plus se tourner vers le développement de la croissance interne. Alors, c'est vrai en Chine, mais ce que l'on oublie, c'est que c'est aussi le programme du gouvernement russe. Et tout ceci va, pendant une certaine période, largement troubler l'économie mondiale.
Voilà, c'est le souverainisme économique alors ? On peut dire ça ?
On peut dire cela, même si je ne pense pas que la notion de souverainisme s'applique dans ce cas.
Je dis ça parce qu'on va évidemment parler de ces idées tout à l'heure dans la dernière partie de la Grande Table avec vous, Jacques Sapir. La direction d'Air France précise son scénario de réduction de ses vols si un accord n'est pas trouvé rapidement avec les syndicats ce matin, agite la menace de départ contraint, perspective d'une baisse à Air France de 10% des programmes long courrier.
Muriel Mayette a été choisie par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, pour prendre la tête de la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome. Le décret doit encore être signé par le Premier ministre.
Oui, c'est la succession donc de l'historien d'art Éric de Chasset qui a comme souvent fait couler beaucoup d'encre, la succession, qui débouche donc sur la signature cette fois d'une pétition, une quarantaine d'artistes, de chercheurs qui mettent en cause les compétences de la future directrice de l'Académie de France à Rome. Elle ne connaît, affirment les signataires, aucun des domaines artistiques et intellectuels représentés à la Villa. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, un directeur, une directrice qui ne connaît pas vraiment le domaine qu'il doit diriger, c'est finalement assez habituel, mais là c'est un exemple peut-être qui est aussi significatif de tout un système.
Bah, tenez, je pourrais vous parler des domaines de chasse de Chambord. C'est tout à la fois désuet et fort utile à l'exercice démocratique. Mais rassurez-vous, je vais me concentrer sur la Villa Médicis et commencer par évoquer ce qui est du ressort de l'accoutumance des pouvoirs aux nominations régaliennes, ce qui s'apparente aux petites obligations, à même de solidifier un réseau de protection des solidarités transcourants. À ce stade, rappelons que l'épouse d'Éric de Chasset serait très amie avec la compagne du chef de l'État et que le mari de Muriel Mayette donnerait l'accolade amicale au Premier ministre. Ce feuilleton politico-clientélo-mondain pourrait être enseveli par je ne sais quel autre dévoiement et ainsi de suite, sur le mode « c'est comme ça depuis toujours », sauf à se tourner vers Emmanuel Vallon, professeur de sociologie politique, sociologue qui aurait rêvé mettre au jour d'occultes ressorts. Mais non, rien de tel.
On peut voir un événement dans la perpétuation de mauvaises mœurs, l'indice d'une certaine subordination de la culture et sans doute un surinvestissement de l'exécutif dans les affaires personnelles qui entoure ce genre de décision. Dans le climat préélectoral, il y a toujours la possibilité de petits calculs de ce que un de mes collègues politologues appelait des transactions collusives. Flatter tel ego permet ensuite de compter sur des bienveillances, voire des solidarités qui auraient leurs effets sur le plan médiatique.
Alors, il y aurait bien, Antoine, une autre explication selon Emmanuel Vallon, une incontestable réduction de l'aire de décision due à la décentralisation culturelle. Alors, quand il s'agit d'user de son pouvoir pour porter à la tête de la plus prestigieuse place culturelle française, une connaissance, le fantasmatique, pourrait l'emporter sur les compétences.
Merci beaucoup Mathieu Laurent. Sans transaction collusive, nous accueillons notre invitée Françoise Fressos. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde, auteur d'un livre sur François Hollande qui s'intitule « La fin du stage ».
Non, le stage est fini.
Le stage est fini, excusez-moi.
C'est
un titre plus fort. Le stage est fini, donc, c'est publié chez Albin Michel. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée idées sur France Culture. Donc, première question, est-ce que François Hollande a des idées ?
Oui, je le pense. Je pense qu'il a des idées. Le stage est fini, c'est l'idée de dire que il y a eu énormément d'amateurisme au début, que la gauche n'était pas prête à gouverner. 3 ans ont passé, il y a une évolution. Je pense que François Hollande en fait est revenu à ce qu'il a été à l'origine, c'est-à-dire un démocrate proche de Jacques Delors, quelqu'un qui est inscrit dans l'Europe, mais qui a tellement intégré la faiblesse française qu'on a l'impression qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire
oui, parce qu'il a dit, dans votre livre, qu'il aurait, quand bien même il aurait voulu batailler contre les Allemands pour changer les traités, ça n'aurait servi à rien. C'est quand
même
un aveu d'impuissance extraordinaire.
Il est absolument convaincu que s'il avait fait ce que Arnaud Montebourg l'incitait à faire, c'est-à-dire taper sur la table, dire à Angela Merkel, c'est pas possible, il y a une autre politique possible, la France se serait marginalisée. Donc il a profondément... Donc ça, pour ça, c'est un héritier aussi de François François Mitterrand. Il a fait le choix européen. La difficulté pour lui, c'est que il se trouve confronté à un héritage de Nicolas Sarkozy et puis aussi au fait qu'il y a eu une grave crise en 2008 qui fait que la France est dans un état de faiblesse par rapport à l'Allemagne énorme, c'est-à-dire qu'il y a un problème de déficit et surtout un problème de compétitivité. Et il n'arrive pas vraiment à résoudre ce sujet et ça pose donc le problème de l'impuissance politique et de la souveraineté française.
Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre cette relative impuissance intérieure face notamment aux questions européennes et économiques et puis malgré tout des prises de position qui paraissent plus fermes, plus nettes sur la scène internationale?
Est-ce que oui, c'est sur la scène internationale, vous avez tout à fait raison, mais pas européenne. Regardez le contraste aussi.
Pourquoi ce contraste? Pourquoi est-ce qu'on fait...
Parce que je pense qu'il est dans la foulée des présidents de la République française, dans la foulée de De Gaulle, en disant la France, elle a un siège au Conseil de sécurité, la France, elle peut avoir des faiblesses, mais elle compte encore, sa voix porte. Et donc, on se porte au secours de ceux qui nous demandent, même si on n'a pas les moyens budgétaires. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce contraste entre la projection à l'extérieur d'une France très forte et la difficulté intérieure.
Frédéric Saïs, une question.
Oui, il y a l'idée en filigrane dans ce livre, effectivement, que François Hollande est très tranchant sur la scène internationale. On l'a vu, il est flou et velléitaire sur les questions sociétales. Ça flotte au moment de l'affaire Leonarda, au moment du mariage pour tous, où il revient sur ses propos. Et en même temps, extrêmement pointilleux sur les affaires de fiscalité. Un chef de bureau de la législation fiscale, dit même un conseiller que vous citez dans le livre. Est-ce que le problème de ce quinquennat, finalement, ne vient pas de là, de l'hypertrophie de l'économisme au détriment du reste dans le cerveau présidentiel?
Si, je pense que c'est un économiste au fond de l'âme, François Hollande, donc il voit beaucoup la société par l'économie. Et je pense que sur les impôts, il a commis une erreur d'analyse très forte au début du quinquennat. Il s'était engagé à réduire les déficits. Il ne voulait pas réduire la dépense publique parce que la gauche ne le voulait pas. Et donc, il a fait de la fiscalité. Et comme il s'y connaît, comme il avait fait, il s'est beaucoup illustré au Parti Socialiste sur des prises de position fiscales. Et avec Jérôme Cahuzac, du coup, il a vraiment fait la compétition pour trouver la petite mesure qui se verra le moins possible. Sauf que les petites mesures accumulées au fil des années, au bout d'un moment, ça a été une allergie, ça a suscité une allergie fiscale. Et je pense que par rapport aux Français, son principal problème, c'est ça, c'est les impôts.
D'ailleurs, il dit dans votre livre, le vrai élément de clivage entre la droite et la gauche, c'est l'impôt.
Absolument. Et puis, dans le livre, on rappelle aussi que bon, il s'est souvent affronté à Nicolas Sarkozy, y compris avant. Et Nicolas Sarkozy, très tôt, lui avait dit, mais c'est quoi cette gauche qui ne fait qu'augmenter l'impôt? Et je pense qu'effectivement, la confrontation et l'erreur, ça a été de considérer que, comme Nicolas Sarkozy voulait être le président de la baisse des impôts, lui serait la présidente qui mettrait de la justice en augmentant les impôts, sauf que la France, elle en avait déjà vécu 30 milliards sous Nicolas Sarkozy et que la coupe était absolument pleine.
François Fresso, ce qu'on vous avait dit, François Hollande, économiste, j'ai vu Jacques Sapir qui faisait un peu la moue. Vous avez pu discuter avec lui assez souvent, donc est-ce que vous avez l'impression qu'il a une vision globale des choses qui pourrait s'apparenter à une idée?
Alors, il a effectivement une vision globale. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Il a des convictions européennes très fortes, qu'il masque parfois. Si vous voulez, quand il rencontre quelqu'un, il lui donne toujours le sentiment qu'il est plus ou moins d'accord avec lui. Après, on est dupe ou on n'est pas dupe. Hein.
Il fait la synthèse des conversations qu'il a avec les gens.
Voilà.
Il ne dit jamais ce qu'il pense.
Voilà.
Est-ce qu'il pense quelque chose?
Mais oui, il a des convictions européennes. Ça, c'est tout à fait évident qu'on peut suivre ou qu'on peut contester, mais il faut le reconnaître. Après, je ne pense pas que ce soit un économiste. Je pense qu'en réalité, c'est un gestionnaire. Il n'a pas de vision réelle des équilibres économiques. Il n'a pas de compréhension de la macroéconomie. Il a par contre une idée, pas nécessairement fausse, de la gestion de l'économie.
Question de Frédéric Saïs.
Oui, il y a un autre paradoxe dans ce livre signé Françoise Fessoz. C'est un homme qui connaît bien les socialistes et leur nature humaine. Il est resté à la tête du parti pendant 11 ans. C'est le record de ce parti. Et en même temps, il confesse sa naïveté sur le fait que la gauche n'est pas parvenue à se rassembler. Il dit, la gauche sait qu'elle est minoritaire dans les esprits, dans le pays. J'ai pensé que, tout à trac, l'ensemble des partis se coaliseraient et formeraient, il ne le dit pas comme ça, mais une forme de soutien derrière moi, parce que justement, on est minoritaire face à la droite et face à l'extrême droite. Alors, c'est quoi? Il est naïf ou est-ce qu'il se débarrasse à bon compte des choses qu'il n'a pas réussi à faire?
Non, mais Manuel Valls va un peu dans le même sens en disant, mais je comprends pas ce qui s'est passé parce qu'au fond, tout le monde avait sa place dans l'équipe Hollande. La campagne, ils ont été, pour la première fois depuis 10 ans, tous les socialistes étaient rassemblés. Et François Hollande les a installés au gouvernement. Personne n'a pu dire je suis en dehors, je suis méprisé. Et ce qui a choqué François Hollande et Manuel Valls, c'est le comportement notamment, vous savez, de ce qu'on a appelé la bande des quatre, et notamment d'Arnaud Montebourg. Ok, et Laurent Fabius le dit aussi très bien. Il dit OK pour des débats au sein du gouvernement, très bien, mais taisez-vous à l'extérieur. Or, ça a été une sorte d'agiprote permanente. Et je pense que ça aussi, ça a été très dévalorisant pour l'équipe au moment où on était quand même dans une crise profonde et qu'on attendait une parole forte du politique.
Est-ce qu'il croit en sa réélection, là, à l'heure qu'il est ?
Il la prépare en tout cas. Objectivement, beaucoup estiment que c'est compromis. Et lui, il a toujours eu la baraka. Donc je pense qu'au fond de lui-même, il pense que c'est possible.
Françoise Fressoz, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre « Le stage est fini », publié chez Albin Michel.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Temps frais, humide au nord, ensoleillé au sud, température 16 à 29 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. 17h, magazine de la rédaction, l'exil, l'ultime recours d'Akbar l'Afghan. C'est un reportage d'Olivier Denré, réalisé par Annie Brault, présenté par Tara Schlegel. Prochain journal, 18h, avec Benoît Bouscarel.